Séquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Les émotions d'échafaud. Bonjour à tous et toutes. Ces dernières années, les recherches sur la peine de mort ont profondément changé notre regard sur ce châtiment. Il aura fallu attendre son abolition pour se pencher sur le sens que pouvait avoir cette peine pour ses contemporains. En fait, il a surtout fallu séparer la peine de mort de son abolition pour commencer à l'historiciser, pour ne plus penser qu'elle tendait mécaniquement vers cette abolition, pour ne plus penser qu'elle relevait seulement du droit, mais qu'elle était un phénomène social total. La peine capitale est en même temps un rituel judiciaire, une cérémonie politique et une manière d'occuper l'espace public. Car ne l'oublions pas, jusqu'en 1939, la guillotine est longtemps érigée au cœur des villes. L'exécution publique est un petit théâtre des horreurs, avec ses personnages récurrents et fascinants, le criminel et le bourreau. Une occasion pour les médecins de récupérer des têtes et des corps encore chauds pour se livrer à d'improbables expériences. Et enfin, l'exécution publique est un moment de décharge d'émotions fortes. Mon invitée, Anne Carole, a ainsi pu faire une histoire des émotions d'échafaud et une histoire des sensibilités à partir de nombreuses exécutions publiques qui jalonnent le 19e et le 20e siècle. Les procureurs et les policiers chargés d'encadrer une mise à mort en ont-ils été affectés? Que ressentent l'exécuteur et le condamné quand la mort s'apprête à frapper? Et surtout, comment peut faire l'historien ou le socio-historien pour trouver trace des sensibilités dans des archives d'État qui sont censées en être dépourvues? Entrer dans le châtiment suprême par les sensibilités permet de remettre l'humain au cœur de la violence punitive. Cela permet aussi de trouver de nouvelles inflexions dans la manière dont ce châtiment, en apparence immuable, a pu évoluer. Ces acteurs directs, comme le criminel, ou indirects, comme les journalistes, en proposent de nouvelles lectures, en subvertissent le sens habituel, le sécularisent, le contestent et finalement participent de sa progressive disparition. Bonjour Anne Carole.
Bonjour.
Anne Carole, vous êtes historienne, historienne du corps, professeure à l'université d'Aix-Marseille et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les émotions et sur la peine de mort. Je vous reçois aujourd'hui pour un livre qui vient de paraître, Au pied de l'échafaud, une histoire sensible de l'exécution, préfacé par Georges Vigarello et c'est sorti aux éditions Belin. Alors Anne Carole, comment est-ce que l'historienne que vous êtes va trouver des émotions exprimées dans des archives officielles, parce que ces archives officielles, dans un premier regard, elles sont administratives, elles sont froides.
Alors ce sont des sources que vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé aussi dessus.
C'est vrai.
Donc ce sont les dossiers de recours en grâce qui contiennent des rapports faits par les procureurs qui étaient en charge de l'exécution, des rapports qu'ils adressent à leur ministre de tutelle, donc au garde des Sceaux. Et bien que ces rapports, a priori, ne nécessitent pas de s'étendre très longuement sur les derniers instants du condamné, une grande proportion d'entre eux rapportent en détail le comportement, les gestes, le comportement corporel du condamné et permettent donc, de ce fait, de lire sur ce corps les émotions qui s'expriment.
Donc, en fait, ce que vous essayez de voir aussi, c'est celui qui a rédigé l'archive, c'est-à-dire essayer de trouver l'auteur, l'homme, celui qui a fait ça, qui a écrit, parce qu'il va laisser passer des choses qu'il a pu ressentir.
Alors, l'émotion du scripteur, enfin du procureur qui écrit, on l'aperçoit très rarement en réalité. Il ne l'avoue que très rarement. Mais ce qu'il décrit, ce sont les émotions des protagonistes, et principalement du condamné. Il est à l'affût de ses émotions, il est à l'affût notamment à certains moments clés de l'exécution où elle risque de devenir paroxystique. Et donc on peut trouver là un récit qui est produit par des centaines de procureurs différents tout au long du siècle, qui n'ont pas de modèle de rédaction, qui écrivent tous au même personnage et qui, du coup, peuvent être utilisés de façon comparative très riche, puisque, bon, encore une fois, c'est vraiment une écriture personnelle qui s'exprime à ce moment-là et pas seulement administrative.
On a beaucoup de traces, Anne Carole, de ces exécutions, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait écrire. On a à la fois ces rapports, on a des rapports de police, on a des comptes rendus journalistiques. C'est quand même quelque chose qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre au 19e et au 20e siècle.
Oui, on ne manque pas de documentation sur ces exécutions et longtemps, d'ailleurs, l'historiographie s'est appuyée sur les récits de presse, qui était la source la plus accessible, la plus abondante, puisque la presse se spécialise dans le fait divers, et dans ce fait divers, on part du crime pour arriver jusqu'à l'exécution du criminel. Donc on a beaucoup de récits par la presse, mais C'est une source que j'ai écartée parce que c'est une source qui vise justement à faire de la sensation et donc qui est biaisée, il me semble, de ce point de vue-là, et moins intéressante que l'archive administrative, où l'émotion, elle transparaît de façon inattendue. Enfin, elle sourd des textes sans être intentionnelle. Alors après, on a beaucoup aussi de récits de témoignages,
d'aumôniers,
voilà, des gardiens, des chefs de la police, etc., qui sont à manier, disons, avec plus ou moins de précaution, parce que c'est souvent écrit a posteriori et dans un but déterminé.
Ouais, on peut se donner éventuellement le beau rôle. L'autre élément important dans votre ouvrage, Anne Carole, c'est que vous essayez de vous rappeler que la peine de mort et l'exécution publique, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'il faut à un moment sortir du ciel des idées, il faut sortir d'un texte juridique. Au moment où c'est appliqué, au moment où le bourreau va, l'exécuteur va prendre en charge le condamné, là on est dans quelque chose d'extrêmement concret. C'était ça aussi qui vous intéressait, la matérialité de la peine de mort?
Oui, cette matérialité, elle m'intéressait parce que, effectivement, bon, on a beaucoup de choses autour des débats abolitionnistes, mais peu de choses, peu d'approches anthropologiques et sensibles de l'exécution. Et en fait, on a aussi, je pense qu'on est aussi très tributaire de la vision de l'exécution Belle Époque parisienne, qui est une exécution très rapide, qui dure parfois moins de 10 minutes. Et on a l'impression que les choses s'enchaînent tout naturellement et vont de soi. En réalité, l'exécution, elle n'est pas prescrite dans la loi. En tout cas, elle n'est pas prescrite de façon détaillée. On a juste quelques éléments concernant les protagonistes qui doivent être là, comme le greffier. Mais après, comment est-ce qu'on coupe un homme en deux, comme disait Clémenceau? Donc, c'est un processus qui prend du temps, c'est quelque chose qui met en jeu le corps des protagonistes. Et ça m'intéressait de descendre à ce niveau technique, parce que ça en apprend beaucoup, finalement, sur quelque chose qui n'est pas du tout naturel, justement, enfin, qui ne va pas de soi. Et je ne crois pas que ce soit faire de l'anachronisme que de dire ça. Nous, on a du mal à imaginer comment on pouvait mettre en œuvre ce châtiment, mais je crois qu'il faut se poser effectivement cette question, cet anachronisme salutaire, parce que ça n'allait pas de soi sans doute aussi à l'époque.
Oui, même si c'était un châtiment qui existait dans le droit, le moment où les protagonistes vont devoir tuer cet homme et rester à proximité de lui, notamment au moment du réveil, ça c'est quelque chose qui leur fait quelque chose émotionnellement, qui les atteint.
Oui, je postule effectivement qu'on ne tue pas un homme de façon distanciée, naturelle et sans en être soi-même affecté. De même que on ne peut pas penser que quelqu'un qui apprend qu'il va mourir dans les minutes qui suivent peut rester sans émotion. Donc oui, il y a une proximité très grande. Des gens comme l'aumônier, par exemple, qui suivent le condamné déjà avant l'exécution et puis pendant l'exécution du moment du réveil jusqu'au couperet, sont dans une proximité physique et dans un partage des émotions qui est sans doute très dur pour eux, enfin très difficile à assumer.
Dans cette dimension concrète, Anne-Carole, il y a aussi, au fond, l'idée de travailler sur la violence punitive. Hein. Vous écrivez, l'objectif du livre est de faire sentir la violence de la peine de mort, de la déployer dans son espace et dans sa durée. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est un moment extrêmement violent, de violence sur un corps et de violence émotionnelle sur les autres corps.
Oui, le paradoxe de l'exécution, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc je rappelais le mot de Clémenceau, couper un homme en deux. Et en même temps, c'est quelque chose qui ne doit pas être brutal. Et tout le danger de l'exécution, quand elle se déploie justement dans la durée, c'est que cette brutalité n'affleure jamais. Or, plus une exécution dure, plus les émotions qui s'y déploient peuvent elles-mêmes atteindre des niveaux paroxystiques, et il faut donc gérer tout ça. Et travailler sur ces sources permet de voir justement tout cette gestion des émotions par le biais de techniques, par le biais de dispositifs rituels, etc. Et donc d'observer ces résurgences de la violence qui sont à la fois redoutées et qui, de fait, peuvent se produire.
Anne-Carole, il y a aussi dans votre démarche d'historienne une dimension très, très humaniste qui fait penser aux travaux de Michel Foucault ou de Philippe Artière, c'est-à-dire restituer leur densité aux vies infâmes, selon l'expression foucauldienne, restituer leur densité à ces condamnés à mort, dire ce qui se joue dans la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette volonté de dire c'est des humains, enfin tous ces gens-là sont plongés là-dedans et le condamné est aussi quelqu'un qui ressent quelque chose et non pas un objet, quelque chose de réifié dans la procédure de mise à mort.
Ça, c'est un, c'est une dimension de mon travail qui n'était pas prévue au départ, mais quand vous passez des journées entières que vous, aux archives et que vous voyez dans la journée tomber 40, 50, 60 têtes, dont finalement il ne reste qu'un rapport laconique de quelques lignes disant que l'exécution s'est passée à telle heure, à tel endroit et que l'ordre public n'a pas été troublé, bah, c'est vous qui êtes troublé finalement, parce que ces vies, elles sont... réduite à quelques lignes. Donc, je voulais essayer de montrer, et ça va de pair d'ailleurs avec le mouvement qui traverse l'exécution tout au long du siècle, je voulais essayer de montrer que ces hommes essaient de mourir d'une façon singulière, de se réapproprier leur mort. Et donc, j'ai pas de fascination hein, pour les criminels.
Je suis pas héroïsé,
je suis pas gêné, ouais. Encore moins Foucault. Mais bon, voilà, il y a quand même cet effort de ces hommes pour mourir dignement. Et de plus en plus à la fin du siècle, pour mourir comme ils veulent mourir, ou comme ils essaient de mourir dans la faible marge qui leur est laissée, qui m'a touchée, voilà, et que j'essaie de restituer.
On en redira un mot tout à l'heure. On va écouter une chanson sur la guillotine écrite par Jean-Paul Sartre pour Huis Clos, interprétée ici par Juliette Gréco, La rue des Blancs-Manteaux.
La rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs-Manteaux. Dans la rue des Blancs-Manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des Blancs-Manteaux. Dans la rue des Blancs-Manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé son haut, la tête avec le chapeau dans le ruisseau des Blancs-Manteaux.
La valeur de l'homme, les émotions d'échafaud, nous sommes en compagnie d'Anne Carole. Anne Carole, on va essayer de voir quel type d'émotions sont activées par cette exécution en public. Par exemple, il y a un premier moment d'émotion qui est le moment du réveil du condamné, quand les officiels vont lui annoncer au milieu de la nuit, il ne le sait pas, qu'il va être exécuté dans les minutes qui viennent. Ça, c'est un moment qui est bouleversant pour ceux qui le font.
C'est un moment qui est très fort, effectivement, pour tous les protagonistes. C'est un moment où on observe d'ailleurs de façon privilégiée le comportement du condamné, parce que à ce moment-là se révèle chez lui la capacité ou non d'affronter la guillotine, non pas sereinement, mais enfin disons sans craquer, comme on dirait maintenant. Donc oui, c'est un des moments forts, avec la toilette aussi, où on coupe ses cheveux, sa chemise, qui préfigure un peu la décapitation. C'est un moment... En fait, c'est le moment qui marque le début de l'exécution. Moi, je pense qu'il faut comprendre l'exécution, non pas comme le moment où le condamné est basculé sous le couperet, mais comme cet intervalle de temps entre le réveil, en tout cas l'annonce, hein, et puis... la chute du couperet, effectivement.
Vous dites qu'il y a, Anne Carole, une sorte de contagion émotionnelle des gens qui sont là, c'est-à-dire qu'on trouve dans les rapports des passages qui disent « nous avons tous été émus par ce réveil ». Donc il y a effectivement une espèce de partage émotionnel des protagonistes.
Oui, c'est-à-dire qu'on part dans une configuration idéale où il faudrait que l'annonce du rejet du pourvoi, l'annonce de l'échec de la demande de grâce, entraîne une réaction de peur, de repentir chez le condamné, mais qu'il la maîtrise en quelque sorte. Et donc on devrait être dans un moment décent, convenable, où, ma foi, c'est bien regrettable, mais la justice doit suivre son cours. Et en fait, évidemment, ce moment du réveil peut susciter chez le condamné des réactions paroxystiques de désespoir, parce qu'il ne s'y attendait pas, parce qu'il continuait à espérer, etc. Ou de colère, face à ce qu'il considère comme une injustice. Et certains condamnés ont de ce fait des comportements assez, non pas violents, mais enfin, pleurent, hurlent, etc. Et il est difficile de rester sur son compte à soi pour les témoins et de ne pas être, je pense, affecté hein, par ce désespoir. Au moins de ressentir une gêne face à cet homme qui ne veut pas mourir et qui peut l'exprimer parfois très fortement.
Surtout qu'eux ne peuvent rien faire parce que justice devant suivre son cours, mécaniquement, si j'ose dire, il va falloir emmener quand même cet homme à la mort. Donc il y a une forme d'impuissance paradoxale.
Tout à fait, il y a une forme d'impuissance, mais avec quand même une obligation d'être dans l'action. Par exemple, il faut annoncer aux condamnés. Et on voit bien tout au long du siècle que c'est un travail qui tourne selon les cas. Rien n'est prescrit dans la loi, donc parfois c'est l'aumônier qui se charge de cela, parfois c'est le procureur qui estime que c'est son devoir, parfois c'est le chef de la prison, voilà, le directeur de la prison qui prend sur lui. On voit bien qu'il y a là des formes de tâches qui sont, enfin, qu'on ne peut pas qualifier de corvée, parce que ce serait presque les minimiser, mais qui sont très difficiles à surmonter pour les protagonistes.
Une autre émotion ou des émotions qui commencent à se faire jour, parce que vous mettez aussi en évidence dans votre travail une évolution, c'est que, on en parlait en début d'émission, l'exécution peut durer. Alors elle peut durer parce que c'est un peu long de s'occuper du condamné, la guillotine peut être placée un petit peu loin. Elle peut durer parce qu'on peut transférer le condamné de son lieu de détention vers le lieu d'exécution qui peut être un lieu très distant. Vous donnez un ou deux exemples complètement fous hein, dans votre livre, notamment l'exécution de Rocchini. On peut trouver le temps long parce que le bourreau peut être un peu maladroit. Il y a cette question de la durée. Plus ça dure, plus ça affecte.
Plus ça dure, plus ça affecte et plus la situation devient potentiellement explosive. Hein, parce que on voit bien dans les récits d'exécution qu'un condamné dont l'exécution dure plusieurs heures peut passer par des émotions très différentes. C'est-à-dire qu'il peut effectivement commencer par s'indigner, puis se résigner. Et puis si ça dure trop longtemps, le désespoir peut le saisir. Et donc il y a tout cet enjeu de la gestion des émotions. Et je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut se défaire de l'image de l'exécution très rapide, très standardisée du début du XXe siècle, qui se tient devant la porte de la prison. Et vous avez bien montré vous-même dans vos travaux, Emmanuel, que c'est un mouvement général. Dans la première moitié du XIXe siècle, on peut effectivement avoir des exécutions qui supposent des transferts, avec des moyens de transport qui sont pas très au point. Même encore sous le Second Empire, un condamné, Viguery, je crois que c'est en 1868, va être guillotiné à Chamonix alors qu'il est incarcéré à Annecy. Et il faut deux jours pour l'amener en voiture, en traîneau, au mois de janvier. Il voyage même en compagnie de son bourreau pendant un jour et demi. Donc voilà, il y a il y a une durée qu'il faut prendre en compte aussi pour que l'exécution ne tourne pas mal, enfin ne tourne pas à une espèce de d'explosion de violence ou de désespoir.
Au moment même de l'exécution, on commence à appeler au fond une exécution rapide parce que si ça dure, ça bouleverse trop et donc on commence effectivement à chronométrer. Et par exemple, il y a un bourreau qui est très contesté, qui est très connu, qui est Louis Desblères, qui opère à la fin du 19e et puis passera le flambeau à son fils. Et on trouve que Louis Desblères est lent, qui met du temps à actionner. Et ça amène des émotions, ça amène une contestation de ce châtiment trop lent, Anne-Carole.
Oui, alors, c'est assez amusant cette histoire de Louis Desblères, enfin si on peut dire que c'est amusant sur des sujets pareils, mais c'est assez amusant parce que ça témoigne d'une évolution des sensibilités, c'est-à-dire que au milieu du 19e siècle, on ne se poserait pas la question de savoir si un bourreau est lent ou pas lent. La réussite d'une exécution, pardon, ça ne tient pas à la rapidité, ça tient à la solennité du rituel, ça tient au fait que le condamné a bien tenu son rôle, a exprimé du repentir, etc. Les sensibilités évoluant, effectivement, un bourreau qui prend trop son temps, hein, qui ajuste le condamné sous la bascule, ça provoque évidemment des émotions chez le condamné, mais aussi chez tous ceux qui participent et tous ceux qui assistent à l'exécution. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que les spectateurs n'hésitent pas par ailleurs à se dire un peu frustré de la rapidité des choses, mais en même temps, si ça dure, il ne supporte pas. Et on commence à chronométrer, de fait, les exécutions. Ça devient le critère principal de réussite.
Autre évolution que vous mettez en évidence dans votre ouvrage, c'est le recul du religieux. C'est-à-dire qu'on a une exécution qui se sécularise de plus en plus. Quelle forme ça prend, Anne-Carole?
Je pense que, effectivement, bon, on manque d'études sur la période qui sépare les exécutions de l'Ancien Régime et les exécutions telles que je les ai abordées, c'est-à-dire à partir de la fin des années 1830. Mais il est certain que l'exécution du 19e siècle, au début du 19e siècle, elle est encore très imprégnée de religiosité. Le scénario idéal de l'exécution voit le condamné se repentir publiquement, s'agenouiller devant l'échafaud pour prier une dernière fois, embrasser le crucifix, etc., dire qu'il se repent. Ça disparaît effectivement progressivement. C'est-à-dire que cette espèce de modèle anonyme du bon larron repenti, qui était proposé aux condamnés et qui leur servait, je pense aussi, de scénarios sur lesquels s'appuyer pour affronter cette exécution, ce modèle cède la place à d'autres modèles qui n'ont plus rien de religieux, qui relèvent plutôt de la virilité,
du courage.
Voilà, bien se comporter devant l'échafaud, de plus en plus à la fin du siècle, c'est faire bonne figure, c'est se réapproprier dans une certaine mesure ce processus de mise à mort qui vous est imposé, c'est pas se conformer à cet idéal de mort chrétienne qui était encore très fortement répandu, hein, je pense, jusqu'au Second Empire, où ça commence un peu à basculer.
Vos condamnés, certains d'entre eux vont communier, mais d'autres apparaissent presque comme des libres penseurs. Il y en a un qui dit à l'aumônier, je ne vais pas me confesser, mon Dieu à moi, c'est la nature. Ils sont aussi le reflet d'une époque qui se sécularise.
Oui, alors effectivement, on voit, je pense, de façon assez profonde, la déchristianisation de la société qui se révèle à travers ces condamnés, qui ne cherchent plus de ressources qu'en eux-mêmes maintenant, que dans leur conscience, que dans leur propre force, et pas dans quelque chose de transcendant. Je crois qu'il y a aussi, chez certains condamnés, le rejet de l'aumônier en tant qu'auxiliaire de la justice. Parce que l'aumônier, avant et pendant l'exécution, a un rôle quand même qui est de faciliter l'exécution, de lisser l'exécution, d'éviter justement tout débordement émotionnel, etc. Il aide, il soutient et il contraint en même temps. Donc je crois que dans ce rejet de l'aumônier, il y a aussi le rejet de ce qu'il représente au sein de la justice. Et on voit très bien à la fin du siècle, par exemple chez les anarchistes, que certains d'entre eux acceptent l'aumônier, acceptent l'aide humaine de l'aumônier, l'affection éventuellement qu'il leur témoigne au moment de l'exécution, mais ne veulent pas entendre parler de crucifix, de prière, etc.
Ouais, ça c'est des choses dont ils sont assez éloignés. L'autre élément, mais qui va dans le même sens, Anne-Carole, c'est que ce sont des condamnés à mort qui veulent au fond redevenir les sujets de leur propre mort et donc essayer d'en prendre un minimum le contrôle, et ça se manifeste notamment donc dans ce qu'on vient de dire, mais aussi par exemple dans quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est le refus d'être donné à l'académie, le refus de faire l'objet d'une autopsie ou d'expérience. Donc il y a une volonté du condamné de se projeter, de se réclamer de son propre corps.
Oui, alors on le voit tout au long de l'exécution, hein, puisque on veut marcher tout seul, on veut s'habiller tout seul. Bon, il y a effectivement tout cet aspect, et ça se prolonge effectivement sur la gestion du corps après la mort. Ça vient quand même assez tardivement. Hein,
fin du 19e.
Voilà, oui, les premiers que je vois exprimer ce désir, c'est dans les années 1880 en fait. Hein. Quelqu'un comme Lassenaire, dans les années 1830, qui a mis en scène son procès, qui s'est présenté comme un espèce de dandy du crime, qui réclamait la guillotine avec coquetterie, etc., n'a même pas imaginé pouvoir ensuite régler le sort de ses restes. Hein. Il savait qu'il finirait à l'amphithéâtre, et il ne s'est pas révolté contre ça. Donc ça, c'est lié aussi à quelque chose de plus générale, qui est l'évolution des sensibilités face à la mort, l'évolution du funéraire. On est dans un siècle où les gens veulent avoir une tombe familiale avec une épitaphe décrivant leurs vertus, les individualisant, etc. Et les condamnés cherchent aussi, en quelque sorte, à reprendre un peu le contrôle sur leur propre mort et sur le devenir de leur cadavre.
Ça préoccupe beaucoup l'époque, parce que de manière un peu anecdotique, mais ça avait été un grand scandale à ce moment-là, il y a le cas du condamné Pranzini, qui est un type assez flamboyant, qui meurt comme un seigneur, etc., et dont le corps va faire l'objet d'une appropriation très étrange, Anne-Carole.
Oui, Pranzini n'est pas le premier, mais c'est celui dont le cas va faire scandale. La peau de Pranzini a été effectivement récupérée par un adjoint du chef de la sûreté, c'est-à-dire de la police parisienne, qui, voulant faire plaisir à son supérieur, en a fait relier donc des porte-cartes qu'il offre au chef de la police. Voilà. Et la presse s'empare de cette affaire et va en faire un gros, gros scandale, en faisant le lien avec les morts des hôpitaux, les morts pauvres des hôpitaux qui sont en quelque sorte obligés de léguer leur corps à la science, enfin de laisser leur corps à la science parce que personne n'est là pour payer leurs funérailles. Et voilà, on est dans des sensibilités où ça devient insupportable, où tout le monde doit avoir droit à une sépulture pérenne, dans un tombeau, dans un cimetière, et ne pas finir éparpillé en petits morceaux.
Oui, en portefeuille ou en abat-jour.
Ouais.
Mais
voilà,
mais donc il y a quand même l'idée de là, un peu nouvelle, d'une certaine dignité du condamné, ou en tout cas d'une certaine individualisation du condamné à mort, alors qu'avant c'était vraiment un autre absolu. Mmh. Maintenant, il y a une forme d'identification ou d'humanisme qui émerge dans son sort, Anne-Carole.
Oui, il y a quelque chose effectivement qui émerge, mais qu'il faut relativiser, parce que les condamnés restent enterrés dans des carrés à part, dans les cimetières, même si on leur procure désormais une sépulture ordinaire, on va dire. Et puis on sait très bien que lorsqu'on va procéder à des prélèvements et à des greffes au XXe siècle, ce sont eux qui vont servir de réservoir, qu'ils aient donné ou non leur consentement.
L'opprobre continue, mais quand même, on voit, là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui émerge, un statut un peu différent.
Oui, avec un peu de retard, puisque c'est ce qu'avait prévu la Révolution française. Mais les mentalités sont beaucoup plus lentes à évoluer, et ça ne prend effet, effectivement, ça ne commence à prendre effet que dans ces années 1880.
Est-ce que vous avez mis en évidence quelque chose comme une forme d'adoucissement dans le rapport aux condamnés ? Peut-être pas d'adoucissement de la pénalité, parce que la peine de mort continue, mais il y a quand même un frémissement, là, sur une contestation de ce châtiment.
Moi, j'ai pas eu vraiment l'impression d'un adoucissement dans les façons de traiter le condamné. Ce que j'ai ressenti le plus à travers mes sources, c'est une incapacité de plus en plus grande à supporter tout ce travail de la mise à mort chez tous les protagonistes. Alors, après qu'on dise oui, c'est très difficile à supporter aussi pour le condamné, oui, certes, mais c'est aussi et d'abord peut-être très difficile à supporter pour les protagonistes qui la mettent en œuvre.
Et vous aussi, visiblement, on ressent des choses quand on travaille sur les archives. L'historien aussi est pris dans les émotions. Merci beaucoup, Anne-Carole, d'être venue. On a profité d'un passage parisien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Au pied de l'échafaud, une histoire sensible de l'exécution. C'est sorti chez Belin en 2017. Merci à Arnaud à la technique. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve, je l'espère, dans quelques mois pour une nouvelle émission. À bientôt.